Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, entre 18h20 et 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, Syrie, pourquoi regardons-nous ailleurs? Cela fait presque deux mois qu'une tribune d'intellectuels est parue dans Le Monde pour alerter l'opinion française sur ce qui se passe dans la région d'Idlib, dans le nord-est de la Syrie. Et ça fait un peu plus d'une semaine que la vôtre, Michel Duclos, bonsoir, est parue également dans Le Monde. C'était donc que la tragédie d'Idlib est un défi pour l'Europe. On en parlera avec vous tout à l'heure. Cette tribune dénonçait à la fois l'hypocrisie européenne, les bombardements de civils, les déplacements de population qui s'y accomplissent dans un certain silence médiatique et politique. Le chiffre de 900 000 déplacés répété depuis pour ce qui apparaît comme la plus grande catastrophe humanitaire depuis le début de la guerre en Syrie n'a pas suffi à hisser durablement ces événements à la une de nos journaux et de l'agenda politique international. Pourquoi, malgré les faits rapportés par les organismes humanitaires, par les journalistes, les témoignages recueillis, pourquoi cette Syrie intéresse-t-elle si peu en France? Tout du moins, nous allons en discuter avec Michel Duclos, ancien ambassadeur de France en Syrie entre 2006 et 2009, auteur de La Longue Nuit Syrienne aux éditions de l'Observatoire et conseiller spécial à l'Institut Montaigne, avec Garance Lequen également. Bonsoir Garance Lequen.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes journaliste indépendante et autrice en 2015 de Opération César, au cœur de la machine de mort syrienne. C'était aux éditions Stock. Joël Ubrecht est également avec nous. Bonsoir Joël Ubrecht.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de mission à l'Institut des hautes études de justice. Vous êtes membre du comité Syrie-Europe et donc membre également du comité de rédaction de la revue Esprit, et également avec nous Naja Al-Boukeik, vous êtes dessinateur.
Bonsoir.
Et vous êtes dessinateur syrien, réfugié en France, et vous avez connu la prison et les tortures, et vous dessinez justement ce que vous avez pu vivre dans ces prisons d'Assad. On en parlera avec vous dans un instant, et auparavant, un témoignage qu'on retrouve ces temps-ci, viralisé comme on le dit, sur le net.
Putayara, la Qazifi. Qazifi.
Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, cette petite vidéo tourne sur le net. C'est une petite vidéo d'un père avec sa jeune fille, sa jeune enfant qui s'appelle Salwa. Et ce qu'on nous raconte, ce que la presse raconte, c'est que ce père a appris à sa petite fille à rire du bruit des bombes, un peu comme dans La vie est belle de Roberto Benigni. Voici donc un témoignage, un extrait pourrait-on dire, de ce qu'on peut vivre sous les bombes à Idlib. Cela, vous l'avez vu évidemment de votre côté, Naja Al-Boukeik, vous avez vu cette vidéo, mais vous avez aussi, parce que cela vous intéresse, vous venez de Syrie, vous avez vu de nombreux et de nombreux témoignages sur le net qui ont peuplé nos imaginaires depuis maintenant presque 10 ans et qui pour autant passent un peu sur nous comme de l'eau sur les plumes d'un canard.
Bonsoir. Je crois que c'est le trop de diffusion, le trop d'images qu'on voit sur la Syrie. C'est un des pays où une des crises les plus exposées au monde. C'est ça ce qui fait que les gens ont pris ça comme c'est devenu une sorte de quotidien.
Vous voulez dire une sorte de lassitude liée à la répétition?
Répétition, oui, oui. Et puis après ce que j'ai, toutes les expositions que j'ai fait, soit personnel ou assisté avec d'autres artistes. Je crois que j'ai fait au moins 20 expositions depuis mon arrivée en 2015.
Parce que vous dessinez ce que vous avez vécu dans les prisons de Damas.
Et j'ai présenté aux gens tout ce que j'ai vu d'horreur dans les geôles du régime syrien, les techniques de torture, les quotidiens dans les prisons, les gens qui portaient les cadavres. Tout le monde avait des réactions, même des fois il y avait les larmes aux yeux. Il y a une sorte d'humanité qui sort, qui sont choqués. Mais à la fin, il y a une sorte d'impuissance que les gens sortent avec. Ils sont incapables de... Ils ne peuvent rien faire.
Garance Lequen, ce trop-plein, vous le ressentez aussi pour avoir fait longtemps et continuer à faire à distance des reportages sur ce qui se passe en Syrie. Trop-plein d'images, trop-plein de témoignages, trop-plein de connaissances d'une certaine façon. Et puis aussi cette impuissance qui vient d'être décrite par Naja Al-Boukeik.
Alors trop-plein, oui. C'est comme si les Syriens étaient devenus des numéros des choses. Ils sont invisibles. On ne les voit plus. Il y a ce trop-plein, mais il y a aussi, depuis le début, la volonté du régime d'annihiler l'être humain, de faire disparaître le Syrien en tant que sujet. Et ça a fonctionné. Et même jusqu'à chez nous. Enfin, et même quand on parle de chiffres, on se lasse des chiffres, ou alors on s'intéresse aux chiffres quand ils deviennent un symbole. 900 000 déplacés à Idlib. Ah, 900 000 déplacés. Alors là, on va faire des papiers. Parce qu'on est presque à 1 million, quoi. Donc là, ça devient important. Le chiffre veut dire quelque chose. Mais en fait, et là, la petite fille, enfin... Mais moi, elle m'horrifie, en fait, cette vidéo. Enfin, elle me fait flipper, en fait. Enfin, on a envie de rire, et en même temps... Et là, on va s'arrêter. Les gens vont s'arrêter pour regarder, mais...
Mais dans le flux du net... On va la voir, on va la regarder, puis on va peut-être l'oublier aussi vite, parce qu'il y en aura une autre qui viendra sur d'autres sujets nous mobiliser.
Il y en aura une autre, et puis en fait c'est trop dur. Je crois qu'on n'est pas capable de faire face à ça. Enfin, moi je suis presque plus capable de faire face à ça. C'est quelque chose, c'est trop dur en fait, d'aller essayer de comprendre ou d'intégrer ces massacres et ces crimes.
Michel Duclos, en tant qu'ancien ambassadeur, vous avez publié récemment, c'était le 13 février 2020, donc dans Le Monde, cette tribune qui s'intitule La tragédie d'Idlib est un défi pour l'Europe. Et vous parlez de ce terme, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un terme que vous citez ou que vous l'avez récupéré quelque part, de nouvelle normalité des massacres, des bombardements. Vous dites, en fait, les avions russes détruisent des dizaines d'hôpitaux, des structures médicales, en violation du droit humanitaire, mais cela fait figure désormais de nouvelle normalité. Est-ce que ça serait ça, le seuil que l'on aurait atteint, qui d'une certaine façon nécessiterait encore plus de massacres, encore plus de déplacements, encore plus de gens qui sont atteints dans leur chair pour pouvoir justement comprendre ce qui est en train de se passer en Syrie?
J'utilise cette expression parce que je fais un constat. Je ne crois pas d'ailleurs que l'opinion publique soit indifférente, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, les gens comprennent, et s'ils détournent le regard, c'est à cause de ce sentiment d'impuissance. Donc on peut pas faire grand-chose, donc on préfère ne pas s'appesantir, si vous voulez. Et donc je crois que ce qui est vraiment en question, c'est plutôt nos dirigeants, la classe politique. Et là, c'est pas qu'ils ne savent pas, c'est pas qu'ils ne voient pas, c'est peut-être qu'ils n'ont pas les bonnes lunettes, ils n'ont pas les bonnes grilles de lecture. Dans le cas syrien en particulier, cette idée que c'est fondamentalement un combat entre un régime certainement pas sympathique, mais un régime autoritaire, et les terroristes, c'est une idée qui a beaucoup imprimé les esprits de notre classe politique. Et comme par ailleurs nos gouvernements successifs ont fait de la lutte contre le terrorisme légitimement, je ne dis pas le contraire, la priorité des priorités, quand on vient expliquer que attention, là, c'est autre chose. À Idlib, il y a des terroristes, c'est vrai. Mais il y a quand même bientôt 1,5 million ou 1,1 million personnes qui sont tirées comme des lapins.
Et vous dites que dans la ville...
C'est vraiment, on atteint la limite extrême de l'inhumanité de la part d'un régime qui est un régime de terreur, qui l'a sciemment ciblé des villes où il n'y avait plus de djihadistes, et des structures médicales uniquement pour démoraliser la population.
C'est ce que vous dites à propos d'une ville que vous avez bien connue.
Mais il y en a d'autres.
Voilà. Et vous dites qu'il ne reste plus une pierre sur une pierre dans cette ville, et il n'y avait plus de djihadistes non plus.
Voilà, c'était des villes qui s'étaient rebellées contre le régime et qui avaient chassé les djihadistes. Et c'est par ces villes en priorité... que les Russes, parce que c'est quand même l'aviation russe qui est en cause, et le régime s'en prenne. Et donc, là, on voit le mécanisme de la terreur, en quelque sorte, à l'état pur. Et si je puis ajouter un mot, je ne voudrais pas utiliser des grands mots, mais il y a une forme de reniement de la part de nos élites, comme on dit maintenant, au moins de notre classe politique, dans ce refus de voir que cela va directement à la fois contre nos intérêts et contre ce à quoi nous sommes censés croire.
Et cela, effectivement, on aurait pu croire, si on croit à un progrès en matière humanitaire, en matière de droits de l'homme, que c'était des questions qui avaient été réglées, par exemple, pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Joël Dubrecht, vous avez suivi de très près ces questions de l'ex-Yougoslavie, des comités qui s'étaient montés, des promesses politiques qui avaient été faites, par exemple. Eh bien, on pouvait se dire, voilà, on a atteint un cran et on pourrait aller encore un peu plus loin dans la défense des droits, dans la défense des populations civiles. Or, on a l'impression de régresser. C'est peut-être aussi cela qui nous rend pessimistes et qui nous rend impuissants vis-à-vis de ce qui est en train de se passer en Syrie, Joël Dubrecht.
Effectivement, il y a un trop plein, il y a un trop plein de crimes, il y a un trop plein de souffrances et un trop plein de destruction, et ça depuis des années et des années. Et en face de ça, il n'y a pas un trop plein de mobilisation, et il y a même un déficit de réaction de la part des démocraties. Alors évidemment, à ces informations, ces témoignages, à ces images terribles qui nous arrivent, il y a en face aussi de la désinformation. Il y a en face aussi une campagne de réhabilitation d'un dictateur, y compris dans des journaux de grand tirage et dans des reportages à la télévision à heure de grande écoute. Mais il y a surtout ce que disait Michel Duclos, c'est-à-dire ces lunettes qui est la menace et le traumatisme djihadiste et terroriste qui, effectivement, nous, à la résignation devant, disons, l'impuissance, d'une certaine manière, nous font voir les victimes syriennes comme des victimes collatérales d'une lutte mondiale contre le terrorisme, alors que les Syriens sont les victimes d'un terrorisme d'État. Mais les chiffres n'arrivent pas à nous le faire comprendre. Et lorsque les hôpitaux sont les centres de soins sont visés, lorsque à Homs le centre des médias est visé, c'est évidemment pas pour lutter contre le terrorisme, mais pour étouffer dans l'œuf la révolution démocratique qu'avaient portée les Syriens. Et peut-être que ce trop plein d'images, d'une certaine manière, on le prend tous, il nous émeut, mais on n'arrive plus à le raccrocher à une lecture politique des enjeux et du soulèvement de la population syrienne. On le brouille par cette menace djihadiste, et tout cela, bon, explique les différences aussi avec les Balkans. Et du coup, on se met dans l'agenda dès ce que Michel Duclos appelle les néo-autoritaires, ce qui dans les années 90 n'était pas du tout le cas. C'était nous qui, d'une certaine manière, dictions quand même l'agenda dans les relations internationales. Non, là, c'est Moscou, c'est les nouveaux autoritaires.
C'est Erdogan ou c'est effectivement Assad soi-même. Je vous propose d'écouter ce son. C'était chez Ali Badou samedi dernier à la télévision. C'est à vous, l'Hebdo. Il recevait Raphaël Piti, médecin humanitaire.
On ne veut pas voir la réalité qui est cette population qui est massacrée. On ne veut pas voir le problème de l'humain. Dans toute cette histoire, on ne veut pas voir l'homme, on ne veut pas voir les enfants.
On ne veut pas.
On ne veut pas voir. On ne veut pas voir parce que voir, ça nous impliquerait forcément à devoir agir. Et dans ce monde, on finit par confondre l'humanitaire et le politique. Et nos hommes politiques, qui sont incapables, nos hommes politiques au sens large, de trouver des solutions politiques, se contentent de faire un peu d'humanitaire. Et au fond, ça explique pourquoi depuis des années, nous avons 70 millions de personnes qui sont dans des camps. Quand les Russes ont refusé de voter pour la délibération qui permettait
la
résolution qui permettait la prolongation des corridors humanitaires, j'attendais que la France éventuellement puisse condamner de manière assez forte ça, parce qu'on veut affamer une population. Et le président de la République m'a répondu, oui, vous avez raison, j'aurais pu faire une déclaration de principe là-dessus, mais j'ai préféré une politique transactionnelle avec M. Poutine. Quelle politique transactionnelle avec M. Poutine? Qu'avons-nous à échanger avec M. Poutine vis-à-vis d'êtres humains? Nous avons des valeurs. Et ce sont nos valeurs, et en particulier peut-être que j'ai une idée de la France.
Une idée de la France, dit Raphaël Piti, médecin humanitaire qui s'est rendu en Syrie de très nombreuses reprises et qui est responsable de formation à l'Union des organisations de secours et de soins médicaux, et qui, donc, Michel Duclos, dénonçait justement... le grand jeu, d'une certaine façon, on sait ce que ça veut dire en termes diplomatiques, cette question du grand jeu, le grand jeu qui, d'une certaine façon, fait passer la Syrie aux pertes et profits d'un conflit ou d'un accord plus large.
Alors d'abord, je vais défendre le président de la République, puisqu'il a quand même pris l'initiative avec Madame Merkel d'appeler et Poutine et Erdogan. Et donc,
le 5 mars, normalement, il devrait y avoir une réunion. Voilà.
Mais c'est bien tard, le 5 mars.
Oui, c'est ça.
Il peut y avoir d'ici là beaucoup de victimes. Ce que je voudrais dire, et qui va tout à fait dans le sens de Raphaël Pitti, qui exprime mieux que personne, je crois, ce que les Français pensent, la plupart d'entre eux, ou beaucoup d'entre eux en tous les cas, c'est que en 2015, j'avais été invité par la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, que présidait Elisabeth Guigou, à faire un exposé sur la Syrie. Je m'étais placé uniquement sous l'angle de nos intérêts de sécurité intérieure. C'est-à-dire, je disais, si Assad reste en place, ça va se traduire par des afflux de réfugiés et par des attentats terroristes. Donc, je ne me plaçais pas sur le plan moral ou philosophique. Première question des députés, monsieur l'ambassadeur, assez de ces leçons de morale, les droits de l'homme, ça suffit. Deuxième question, pourquoi vous nous parlez toujours des droits de l'homme? Et la présidente Elisabeth Guigou avait dit, mes chers collègues, l'ambassadeur n'a pas dit un mot des droits de l'homme, il s'est placé exclusivement sous l'angle des intérêts de sécurité. Donc c'est là où on voit ce problème de grille de lecture, et j'ose cette formulation d'un certain reniement d'une partie, en tous les cas, de notre classe politique, parce que si l'identité de la France, c'est pas les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est? Et donc, si nous ne sommes pas le pays qui, sur ce terrain, est prêt à se battre, qui le fera?
D'autant, Garance Le Ken, qu'on ne peut pas dire, et votre livre Opération César en témoigne, que ce qui s'est passé depuis 2011 en Syrie n'est pas documenté. Nous avons tous les documents, nous avons beaucoup de témoignages, nous avons, et Najah El-Bouqueï peut en témoigner également, de ces conditions de détention et de torture. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir peut-être mettre en place des procédures de tribunaux internationaux, etc., qui ne verront peut-être jamais le jour, mais néanmoins, on a beaucoup de documents qui permettraient de comprendre ce qui est en train de se passer, mais on n'a peut-être pas les mots à mettre dessus.
Alors, juste avant de répondre à votre question, je me sens pas spécialement française, je me sens humaine. Et en fait, ça me dérange de parler de la France, de l'image de la France. J'aimerais qu'on parle des Syriens.
Mais parce qu'on parle depuis la France, c'est
ouais,
pour ça.
Je sais, mais je suis désolée.
Et, non, mais vous avez raison.
Part de mon malaise.
Bien sûr, vous avez raison.
J'aimerais qu'on parle des Syriens, qu'ils deviennent des sujets. Alors, bien sûr qu'ils n'ont pas vraiment voix au chapitre là, mais je n'ai plus aucune confiance dans nos hommes politiques. Nos hommes politiques, Michel Duclos le sait, ont laissé mourir deux Français dans les geôles de Bachar el-Assad, sans lever le petit doigt. C'est quelque chose qui ne sera jamais pardonné. Voilà. Après, bon, pour revenir à votre question. Je pense que, effectivement, c'est un conflit qui était extrêmement documenté. On a tout ce qu'il faut. Mais on ne voit pas. Je pense qu'il n'y a pas les mots pour décrire ce qui se passe.
Pourtant, le XXe siècle a innové en termes de mots pour dire ce qui se passe en termes de crimes de masse. On a créé le terme de génocide, on a créé le terme de crime humanitaire, de crime contre l'humanité, etc., etc.
Il faut peut-être trouver un nouveau mot pour la Syrie. Je ne sais pas si c'est un génocide, on nous parle de crime contre l'humanité, de crime de guerre, mais il y a quelque chose à trouver, il y a quelque chose... Je pense que ça fait aussi partie peut-être de la difficulté de faire face à ce qui se passe, parce que c'est extrêmement déstabilisant. Plusieurs fois, on a le sentiment d'être au bord d'un précipice, parce qu'on ne sait pas comment parler de la Syrie, on ne sait pas comment entendre les Syriens. Et puis, à chaque fois que je pense à la Syrie, en fait, je pense à Charlotte Delbo, qui parlait dans son livre Une connaissance inutile, qui disait ce point-là.
Charlotte Delbo, donc survivante des camps,
ouais.
Qui a témoigné tout au long de sa vie ensuite de ce qu'elle avait pu vivre dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et elle a écrit ce point-là, on sait que c'est Auschwitz, on le sait, et pour le reste, on croit savoir.
Najah El-Bouqueï, est-ce que justement cette documentation, dont vous êtes vous-même maître aussi, parce que vos dessins qui témoignent de ce que vous avez vécu dans les geôles syriennes entre 2012 et 2015, ce sont des dessins qui peuvent devenir des dessins de documentation de ce qui s'y est passé. Qu'est-ce qui fait qu'on ne le voit pas? Vous dites, quand je fais une exposition, on le voit. Mais au bout du compte, c'est recouvert par tout un tas d'autres histoires qui nous sont racontées sur d'autres lieux du monde, et donc la Syrie n'est pas au centre de ces questions-là.
Peut-être nous, les Syriens, on paye maintenant le prix du développement de moyens de communication. Donc si on diffuse il y a des infos sur la Syrie, à côté il y a des infos sur le sport, il y a des infos sur les stars qui sortent.
Sur le coronavirus en Chine.
Sur le coronavirus, sur le réchauffement climatique. Bon, je regarde mon portable, mon smartphone, il y a les infos, je regarde la Syrie, mais il y a Instagram, je peux regarder tous les artistes du monde maintenant sur mon smartphone où je regarde les génocides en Syrie. J'ai dans mes mains l'histoire de l'art qui m'intéresse beaucoup. Et en même temps, il y a...
Et donc, on peut facilement détourner le regard pour aller s'intéresser à un tableau de Raphaël, pour regarder une statuette précolombienne.
Oui, bien sûr. Il y a une expo d'Al Greco. Il y a le problème de Jeff Koons qui va planter ses tulipes à Paris. En même temps, je regarde, il y a des bombardements en Syrie.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Et puis, il y a aussi les BAFTA, par exemple, qui récompensent un film pour Sama, qui, d'une certaine façon, fait partie aussi de cette alerte, Joël Lubrèche, des opinions publiques occidentales sur ce qui s'est passé en Syrie et ce qui se passe encore en Syrie.
Oui, effectivement, pour Sama a eu en France plus de 100 000 spectateurs qui sont venus voir le film. Carence Loken parlait de la force du témoignage de Charlotte Delbault. Je crois des Syriens ont écrit avec une très grande force. Nadja a peint et effectivement de manière saisissante son incarcération et la torture dans les prisons. Mais on a Samar Yazbek aussi qui a écrit, qui non seulement a écrit mais qui a fondé une association Women Now for Development. On a Majd Eldi qui a écrit à l'est de Damas et qui lui aussi est l'animateur d'associations à destination des enfants. On a Mazen Darwish qui est le président du SCM, cette association qui est présente dans une centaine de dossiers aujourd'hui devant la justice et dernièrement à l'origine de l'arrestation à Marseille d'un porte-parole d'un groupe djihadiste de la Routa pour notamment l'enlèvement de Razan Zetouneh qui est une autre figure qui incarne cette révolution démocratique syrienne. Et il me semble que peut-être on a beaucoup d'images, mais ces Syriens qui incarnent ces Syriens héroïques qu'on a accueillis sur le sol français, mais en si peu nombre, des jeunes journalistes citoyens, ceux qui justement pallient à l'absence de travail de reporters étrangers sur place, qui font remonter l'information de manière héroïque, peut-être qu'eux, on ne leur a pas donné la place qu'ils méritent d'avoir pour parler du drame syrien.
Michel Duclos, il y en a qui doivent sourire ou même rire du côté de Damas quand le président Assad dit la bataille pour la libération des provinces d'Alep et d'Idlib se poursuit indépendamment, dit-il, des discours criards, vides, qui viennent du nord. Bon, alors, ça vient du côté de la Turquie, mais on peut aussi rendre ça métaphorique de l'ensemble des discours qui critiquent le régime de Damas. Voilà une façon aussi de dire, moi je pratique un autoritarisme, une nouvelle politique qui est soutenue par d'autres pays, la Russie, la Turquie d'Erdogan ou l'Iran.
C'est ça, il ne faut pas s'imaginer que ces gens-là, les néo-autoritaires, se sentent isolés. Au contraire, ils ont l'impression de faire partie d'un club qui a le vent en poupe. Hein,
et qui croit.
C'est eux qui sont dans une phase ascendante. Assad, il faut quand même bien voir qu'il y a une partie de méthode Coué. C'est qu'il sait que par ailleurs qu'il n'a pas beaucoup de troupes dans une région où ce qui compte, c'est les bataillons. C'est les Russes, c'est les Iraniens, les Turcs éventuellement, les Israéliens. Lui, il en est quand même réduit à l'os. Et les régions dont il a repris le contrôle, il n'arrive pas complètement à y assurer un minimum d'ordre. Depuis que les Américains se sont un peu réveillés et ont mis en œuvre justement une loi César, sa situation économique devient de plus en plus dramatique. Donc quand il se vante de ses succès, il faut sans doute le prendre avec un grain de sel, mais c'est vrai qu'il y a ce cynisme très particulier à ce régime, cette joie mauvaise de voir les bons sentiments des autres complètement piétinés par la force.
Garance Lequen, quand vous travaillez, et vous travaillez très régulièrement en tant que journaliste indépendante sur cette question syrienne, vous dites régulièrement, en fait on ne voit plus les Syriens, c'est ce qu'on dit depuis le début, on ne les entend plus, ils nous sont absents, vous dites c'est un pays d'absents et un pays d'absence. Mais vous dites aussi qu'on ne voit pas, et ça c'est peut-être dû à ce que racontait tout à l'heure Michel Duclos, cette vision très bloc contre bloc, djihadiste contre européen par exemple, on ne voit pas l'immense fourmillement, foisonnement social, politique, culturel que vous connaissez du côté des Syriens.
En fait, c'est en tant que journaliste, on est pris par le temps. Pour pouvoir voir ce fourmillement, il faut prendre du temps. Il faut parler la langue. On peut plus vraiment aller sur place.
C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a moins d'écho.
Voilà, c'est compliqué. Ce fourmillement existe. Et il y a les Syriens sur place continuent. Il y a un jeune homme qui était à Sarakab avant, Walid, qui faisait du cirque avec, du théâtre de marionnettes avec des enfants de Sarakab. Il y a des choses qui se font sur place.
Mais Walid Abourachet, c'est ça?
Ouais, voilà.
Dont vous avez raconté l'histoire dans le JDD récemment.
Voilà des gens pour qui j'ai beaucoup de respect. Walid, Mohamed, Ahmad, Jennifer, Kate, Fred, Fanny, Mélanie. Ce sont des gens qui communiquent entre eux par Twitter, qui n'ont pas forcément confiance non plus dans nos hommes politiques, ou en tout cas qui n'en attendent pas grand-chose, et qui communiquent par tweet ou par Facebook avec des Syriens. Ça, c'est quelque chose qui donne vraiment de l'espoir. Oui.
Najal Boulkeh, sur ce foisonnement que vous avez sûrement connu quand vous étiez encore en Syrie, que vous connaissez peut-être par procuration à distance maintenant, que vous vivez en France en tant que réfugié.
D'abord, j'aimerais bien citer que en Europe, parmi les migrants qui sont arrivés, il y a peut-être des dizaines, même des centaines, des artistes, plasticiens, musiciens. Et grand nombre parmi eux, ils ont leur travail se concentre sur ce qui se passe en Syrie. C'est pas que Najam. Peut-être moi je parle de l'histoire des prisons, mais il y a plein d'artistes qui sont mis toutes leurs forces, qui n'arrivent même pas à sortir de cette histoire triste de la Syrie, même s'ils font des fleurs ou des maisons, c'est part de la Syrie. Et je veux citer surtout. Il y a la mémoire créative de la révolution syrienne. C'est oui. Une application où il y a tous les... Et puis il y a la caravane culturelle syrienne qui était montée par...
C'est en français, ça s'appelle Creative Memory of the Syrian Revolution, oui. En anglais, mais ça s'appelle en français aussi la mémoire créative de la révolution syrienne, c'est ça?
Voilà, exactement. Et puis il y a la caravane culturelle syrienne qui était montée par Mohamed Roumi, le photographe syrien, avec Amélie Duhamel, qui a sillonné des pays de l'Europe, de l'Espagne jusqu'à la Norvège. Avec des artistes syriens, ils ont exposé partout, bénévolement, pour parler de la Syrie. Donc les artistes, ils ont essayé de tout faire. On ne sait pas quoi faire.
C'est déjà beaucoup. Michel Duclos.
Non, je crois que ça, c'est un point très important pour nos auditeurs. J'ai envie de le résumer d'une formule. Les Syriens ne sont pas ce que vous croyez. Et donc, c'est vrai qu'il y a une habitude, une espèce de tendance à confondre ces peuples barbares qui s'entretuent et au fond c'est très loin, c'est pas nous. C'est pas vrai. J'ai vécu parmi eux, d'autres les connaissent et c'est un peuple dont on vient de parler avec des gens qui étaient très civilisés lorsque nous étions encore dans nos forêts, nos Gaulois. Et c'est des gens dont le peuple est extrêmement aimable, sympathique. C'est un peuple digne, c'est un peuple accueillant, c'est un peuple qui d'ailleurs a eu une grande influence sur la civilisation occidentale. Et si vous voulez, dans l'infinie tristesse du malheur de la Syrie actuelle, je pense que ce message-là est en train de passer, grâce aux témoignages que vous avez indiqués, grâce aux aux gens que vous avez cités, Garance. Et je pense que cette bataille-là, elle ne fait que commencer, cette bataille des récits. Et elle n'est pas perdue. Si vous me permettez d'ajouter quelque chose, je suis malheureusement suffisamment âgé pour avoir connu une période où en France, on ne savait pas ce que c'était que le goulag. Ça n'intéressait personne. Il n'y avait que des milieux.
Avant 1963, une journée d'Ivan Denisovitch, par exemple, c'était peu de choses étaient connues de cette histoire-là.
Et même après, c'était les intellectuels. Donc la prise de conscience prend toujours un temps plus long que l'événement ou que la réalité.
Mais vous comprenez que dans l'urgence d'aujourd'hui, on ait envie que ça aille plus vite.
Bien sûr, même phénomène pour la Shoah, puisque, vous savez, il a fallu deux générations pour qu'on se rende pleinement compte de ce que ça avait été, vraiment. Donc, je dis ça pour relativiser le fait qu'il ne faut pas désespérer sur la prise de conscience par nos contemporains.
Joël Brecht.
Malheureusement, en Russie, aujourd'hui, on essaye de mettre en valeur les apports positifs du goulag. Et c'est très frappant, justement, cette force et ce courage qu'ont eu les Syriens pour se soulever contre un dictateur et le profil bas que fait Guterres au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Nos dirigeants européens qui en sont à essayer de convaincre Poutine et qui ne sont plus eux-mêmes en capacité ne sont plus en capacité eux-mêmes de prendre des initiatives et c'est très frappant. Les Balkans ont marqué une faillite de l'ONU d'une certaine manière, mais le Conseil de sécurité a mis en place, même si c'était de manière un peu hypocrite, un tribunal ad hoc international. Là, le Conseil de sécurité, il suffit, alors qu'une majorité du Conseil de sécurité aurait été favorable à une saisie de la Cour pénale international, il suffit des vétos russes et chinois pour bloquer et ce délitement des institutions internationales, alors que des la population syrienne se soulève, elle, contre l'oppression. Ce décalage-là est très frappant.
D'autant que vous dites effectivement que nous avons tous les moyens dans la législation française de mettre en place la compétence universelle qui permettrait de juger par exemple les criminels, et de votre côté, Michel Duclos, vous dites, mais à tout compte fait, on pourrait aussi, c'est ce que vous proposez dans cet article du Monde, proposer une contre-insurrection intelligente. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez la contre-insurrection intelligente. On a fait de la contre-insurrection en Algérie, ça n'a pas trop bien marché, quelquefois. Mais même si on a réussi sur le papier à vaincre les indépendantistes, au bout du compte, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce que vous appelez la contre-insurrection intelligente pour ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, Michel Duclos ?
Si vous voulez, je me place sur un terrain purement réel politique. Je crois que plus on persécutera, enfin plus ce régime et ses soutiens persécuteront les populations, plus il y aura de terrorisme. Ces gens qui sortiront tant bien que mal, ceux qui resteront vivants des massacres actuels, ils n'auront aucune idée, c'est de se venger. Donc ils seront évidemment encore plus dangereux que les actuels terroristes. Donc je crois que c'est fondamental d'avoir une stratégie de lutte contre les terroristes qui s'appuie sur les populations qui elles-mêmes rejettent les terroristes. Si on ne fait pas ça, l'avenir sera encore plus terrible que le présent.
Garance Lequen, est-ce que vous avez ce soupçon d'optimisme que l'on sent du côté de Michel Duclos ? Est-ce que vous pensez que peut-être les graines qui ont été semées depuis maintenant 9 ans autour de cette question-là, le regard porté sur les Syriens de l'exil ou les Syriens qui vivent encore en Syrie, est en train de changer ? Ou est-ce que vous êtes toujours persuadé que ça manque d'intérêt justement de notre part ou de la part de tous ceux qui sont en dehors de la Syrie vis-à-vis de ce qui est en train de se passer ?
Je ne sais pas si c'est un manque d'intérêt, c'est une incapacité à voir. Enfin, c'est pas forcément un manque d'intérêt. L'optimisme, oui, il faut en avoir un peu. Parce que sinon j'arrête tout. Enfin voilà, c'est pas possible. Et on est obligé de continuer. Mais c'est vrai que moi cet optimisme, je le trouve paradoxalement dans les dessins de Najjar, qui sont extrêmement vivants, qui sont terribles, mais qui montrent des hommes en train de bouger. Enfin on voit ce qui se passe dans les centres de détention. Je les trouve parce que tout à l'heure vous aviez le papier sur Idlib et ces gens qui se parlent, je les trouve auprès de ces gens-là vraiment, mais encore récemment, c'est quelque chose qui me porte en fait et j'en ai besoin.
Vous voulez dire que même quand on continue à bombarder Idlib, vous sentez qu'effectivement il y a toujours cette énergie, cette volonté
Chez certains, chez certains, voilà, dont on parle très peu et y a des graines effectivement. Je pense que on est au début de quelque chose. C'est ce que disait Michel tout à l'heure et ça c'est important. Il faut le cultiver. Oui.
Oui, de votre côté, vous pensez la même chose, Najah El Bouqkeh, c'est-à-dire la possibilité que malheureusement il ait fallu attendre autant de temps pour que à la fois on s'intéresse, on documente et peut-être aussi on imagine un futur pour les Syriens et pour la Syrie qui soit différent de celui qu'on connaît aujourd'hui évidemment.
Bon, la Syrie maintenant c'est une expérience pour toute l'humanité. Même si on attend encore, même s'il y a des générations, moi peut-être moi je compte encore 10 ans pour la fin de cette crise. Je suis un peu peut-être pessimiste dans ce cas de dire 10 ans, ou peut-être optimiste.
Oui, parce que ça peut durer plus longtemps.
Peut-être ça commence maintenant. Hein. C'est peut-être le numéro maintenant, ce qui se passe entre la Russie et la Turquie. Peut-être c'est la guerre numéro 0, comme ce qui s'est passé aux Balkans ou en Crimée en 1850.
Ah oui.
Oui, ça peut dégénérer.
Ouais, et donc ça veut dire qu'effectivement ça peut continuer encore pendant quelques années, peut-être la Syrie devenir un théâtre d'opération encore différent, mais on a déjà connu la Syrie comme théâtre d'opération depuis 9 ans de façon très variée, pourrait-on dire, parce qu'il y a eu des fronts.
C'est ce qui est bizarre en Syrie, c'est on a l'impression que on peut toujours toucher plus profond. On dirait, est-ce que ça peut arriver plus pire que ça? Et on attend, et ça, oui, ça arrive plus pire.
Ah oui, c'est...
Puisqu'on a envie de toucher plus profondément, ça peut...
Ça n'est pas une leçon d'optimisme, néanmoins, ce que vous nous dites. Merci à tous les quatre et merci à vous, Najah El Bouqkeh, d'avoir permis donc à notre équipe de mettre sur le site quelques-uns de vos dessins pour que ceux qui ne connaissent pas votre travail puissent le découvrir. Merci à vous, Garance Le Ken. Je rappelle que vous êtes autrice de Opération César au cœur de la machine de mort syrienne. C'était chez Stock en 2015, que vous continuez à suivre les conflits en Syrie donc en tant que journaliste indépendante. Michel Duclos, on peut citer votre Longue Nuit syrienne aux éditions de l'Observatoire, c'est paru l'année dernière. Et puis pour votre part, Joël Houbrecht, on peut suivre certains de vos éditoriaux et articles sur la Syrie dans la revue Esprit. Merci donc à tous les quatre d'être venus de parler justement de cette façon dont on pourrait regarder autrement ce qui se passe en Syrie. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baye, Fanny Richet, Hugo Boursier et Manon Prisset à la technique aujourd'hui. Élise Leheu à la réalisation, Alexandre Manzanares.